Galates 5, 22, nous l'avons déjà dit. Je vais lire à partir, en fait, un peu des éléments de contexte, à partir du verset 13. Chapitre 5, verset 13, « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que je dis. Marchez donc par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Quelques éléments de contexte, tout d'abord. Les destinataires de la lettre sont des croyants d'origine non juive, habitant la Galatie, une région que Paul avait évangélisée quelques années plus tôt. Sous l'influence de prédicateurs prenant l'observance de la loi de Moïse et la circoncision, même pour les non-juifs, ils sont tentés par une certaine forme de légalisme. Et dans les chapitres précédents, Paul leur explique que si Jésus est venu libérer les juifs de la servitude de la loi, ce n'est pas pour que eux, les non-juifs, s'y soumettent en devenant disciples de Jésus. Paul dénonce une dérive et même une régression consistant sur le croyant à compter sur ses propres forces, des observances, des rites, plutôt que de laisser l'Esprit de Dieu agir dans sa vie pour la sanctifier. Et dans notre texte, Paul dresse deux listes, la liste de ce que produit notre nature humaine et la liste de ce que produit l'Esprit Saint agissant en nous. Et c'est là que apparaît l'expression « fruit de l'Esprit ». Et il faut vraiment l'entendre comme ça. Ce que produit l'esprit, le résultat, l'aboutissement. Et d'ailleurs, le mot fruit est souvent employé dans ce sens dans la vie courante. On parle du fruit d'un travail, le fruit d'une politique. C'est le fruit de l'esprit, c'est le résultat, l'aboutissement du travail de l'Esprit de Dieu en nous. Et il nous en donne les constituants, que sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, parfois traduite par fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Nous notons donc aussi que Paul emploie le singulier, le fruit de l'esprit, pour parler de tous ces éléments, pour englober ces 9 constituants. Et c'est très remarquable, et d'ailleurs ça vient en contraste avec la liste précédente qui apparaît sous un pluriel, les œuvres de la nature humaine. Et pour imaginer un petit peu cette formulation du fruit de l'esprit, j'ai choisi un fruit, et puis on va un petit peu s'amuser à regarder ce qui est à l'intérieur. Donc une pomme, voilà, et que nous allons ouvrir pour observer. Qu'est-ce que nous trouvons dans cette pomme? le pédoncule, hein, par lequel elle est rattachée à l'arbre et par lequel elle reçoit toute la matière vivante qui va la constituer. La peau, qui la protège, qui protège l'intérieur des agressions extérieures. La chair, proprement dite, hein, c'est ce que, bien sûr, nous aimons le plus. Alors, je vais faire mon savant, hein, vous avez une partie centrale, là, qui s'appelle, sur la partie externe, qui s'appelle le mésocarpe, et dans la partie interne, ça s'appelle l'endocarpe. Et puis, quand nous allons jusqu'au cœur, nous avons les pépins en dernier, qui sont la promesse d'avenir, en quelque sorte, hein, de ce fruit, c'est de là que peut sortir un nouveau pommier. J'ai oublié un élément qui est ceci aussi, ce qui reste de la fleur avant qu'elle devienne fruit. Et ceci, c'est le fruit de l'esprit. C'est-à-dire que l'idée n'est pas que nous ayons une corbeille de fruits dans ces neuf constituants, mais un fruit à part entière constitué d'une multitude d'éléments qui sont ceux qu'on vient de décrire. Bien sûr, l'image est limitée, comme toute image. Et donc, le fait que les neuf caractéristiques dont nous avons fait la liste constituent un seul et même fruit, le fruit de l'esprit, témoigne de l'action profonde et généralisée de l'action de l'esprit en nous. On ne saurait privilégier la foi, on ne saurait opposer la joie et la maîtrise de soi, la douceur n'est pas une option. Et il ne s'agit pas non plus de pondérer les différents constituants pour que chacun trouve sa place dans un espace fini, dans un volume fini. Au contraire, plus la pomme est grosse, plus la pomme sera grosse, plus il y aura de peau, plus il y aura de chair, plus il y aura de pépins, plus le pédoncule sera épais, etc. Et donc, les neuf éléments caractérisent tous ensemble le résultat, l'aboutissement de l'action de l'Esprit de Dieu en nous, ce que produit l'Esprit de Dieu en nous. Alors, c'est pas pour autant qu'on peut pas les étudier un par un, comme dans le programme nous faisons dans le programme de cet été, mais ne perdons jamais de vue que l'Esprit, le fruit de l'Esprit, le fruit dans la globalité, le fruit de l'Esprit, c'est le fruit dans la globalité tel que Paul nous le décrit. Et donc, aujourd'hui, nous abordons ce constituant qui est l'amour. Et tout d'abord, nous constatons que nous avons parlé d'amour bien avant le verset 22, on l'a déjà vu à partir dans les versets 13 et 14. Et ce premier élément plante le décor, parce que dès cet instant, nous sommes immergés dans le domaine des relations. Et nous pouvons le vérifier, chacun des neuf constituants a une implication dans le domaine des relations. C'est pas la seule implication, mais il s'agit vraiment d'un point commun qui traverse les neuf éléments du fruit de l'esprit. Les relations avec les autres, bien sûr. Et les autres, c'est qui? Peut-être pouvons-nous tracer autour de nous trois cercles, nos proches, premier cercle, deuxième cercle, qui pourrait être celui de nos frères et sœurs, de la communauté chrétienne, et le troisième cercle, c'est le cercle de notre prochain, de toutes les personnes auxquelles nous sommes amenés à rencontrer. Après, on pourrait faire des subdivisions, mais restons simples. Si notre texte met clairement le focus, on a bien vu, c'est très très marquant, sur les relations communautaires, je me permettrai de décliner notre réflexion sur l'amour dans les trois cercles, parce que nous vivons chaque jour dans ces trois cercles. L'amour, le même amour pour tous? Question. Le même amour pour tous? Question difficile, hein, surtout si on l'aborde sous l'angle de la quantité. Et on s'en sort pas forcément mieux en le divisant en catégories. L'amour pour ma femme est-il si différent par nature de l'amour pour mes frères et sœurs? En tout cas, cet exemple suggère que peut-être ce sont les plans sur lesquels on peut l'envisager qui sont des plans différents. Et le premier plan que je vois touche au champ d'action. À chaque champ d'action, famille, communauté, monde, correspond une manifestation et une expression de l'amour propre à ce champ. L'intimité familiale, et à plus forte raison l'intimité du couple, ne s'exprime qu'en privé, selon un mode qui lui est propre. Au champ d'action communautaire, beaucoup plus large, plus public, correspondent une expression et une manifestation de l'amour de Dieu également plus communautaire, dans une relation de vérité les uns avec les autres. Quant à l'expression de l'amour pour le reste du monde, elle se manifestera dans peut-être une compassion, une compréhension attentionnée, suivant le modèle donné par Jésus. Nous pouvons noter que si les champs d'action diffèrent, il s'agit toujours d'amour, nous parlons toujours d'amour. Et en conséquence, nous rechercherons la cohérence dans tous les domaines de notre vie. Nous veillerons à éviter les décalages, les distorsions entre champs d'application qui altéreraient la cohérence de cet amour, de fruit de l'esprit en nous. Le second plan que je vois est celui des responsabilités. Nous avons tous des responsabilités, les uns à l'égard des autres. Mes responsabilités ne sont pas les mêmes à l'égard de mes proches qu'elles le sont à l'égard de mes frères et sœurs en Christ, et elles diffèrent encore de celles que j'ai à l'égard de mon prochain. Et donc, l'amour que je porte aux uns comme aux autres sera teinté forcément de cette responsabilité que j'ai à leur égard. À mes proches, je dois un amour teinté de soins, de protection, j'en passe. À mes frères et sœurs en Christ, je dois un amour empreint de fraternité, de cohésion, d'unité. À mon prochain, je dois un amour témoin, un amour relais de l'amour de Dieu, un amour qui touche les cœurs et interpelle. Et c'est loin, ces listes, ce sont des exemples seulement qui sont loin d'être exhaustifs. Mais il faut aussi considérer que ces trois plans interagissent entre eux et débordent les uns sur les autres. Juste quelques versets pour illustrer. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous trouvons ceci, chapitre 13 de Jean. Dans 1 Timothée, Paul dit à Timothée, « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi, il est pire qu'un incroyant. » Et toujours en Timothée au chapitre 3, il dit que une caractéristique des anciens, c'est qu'ils reçoivent un bon témoignage des gens de l'extérieur. Donc, on voit que les trois plans, s'ils sont distincts, interagissent entre eux malgré tout et ont des interactions les uns entre les autres. Donc, un même amour pour tous, à l'image de l'amour que Dieu a pour tous les hommes, mais un amour qui diffère en responsabilité envers des personnes qui en sont l'objet. Et le troisième plan sur lequel je me place est celui des conséquences. L'amour porté entre les membres d'une même famille produit des personnalités équilibrées, mieux équipées pour la vie. Une étude affirmait que le mieux que les parents des parents puissent faire pour leurs enfants est de s'aimer. L'amour porté entre les membres d'une communauté de croyants la rend unie, l'amour couvrant une multitude de péchés. Et l'amour envers notre prochain l'interpelle et l'attire vers Dieu. C'est aussi par l'absence que l'amour manifeste de nombreuses conséquences. Par l'absence d'amour, on a des conséquences. Les enfants qui ont manqué d'amour en sont marqués pour la vie. Ils ont du mal avec l'image de Dieu comme père. Ayant du mal à se sentir aimé, à se savoir aimé, ils ont du mal à aimer en retour, à leur tour. Au niveau communautaire, nous l'avons lu dans notre texte tout à l'heure, l'absence d'amour produit le désordre. Si vous vous dévorez les uns les autres, Paul dit aux Galates, désordre et division. Et l'absence d'amour et l'indifférence à l'égard de notre prochain devient une incohérence dans notre vie si flagrante qu'elle tord l'image qu'il peut se faire de Jésus lui-même. Donc à la lumière de cette première partie, je vous propose d'envisager la deuxième partie de notre réflexion sur comment aimer. Comment l'amour s'exprime-t-il ? Comment aimer ? là où l'on considère souvent l'amour comme un sentiment qui pousse à manifester une affection vers quelqu'un, à vouloir son bien, le Larousse se distingue un peu en y reconnaissant, au moins partiellement, un mouvement d'une personne vers une autre ou d'une personne vers Dieu. Alors bien sûr, il serait vain de nier l'existence de sentiments sortis du tréfonds de notre être, en particulier dans une relation dite amoureuse. Contempler mes premiers petits-enfants a suscité en moi des sentiments qui m'étaient jusque-là inconnus. L'amour inné est une de ces belles choses que Dieu nous donne gratuitement. Mais il ne se limite pas à cela et le considérer seulement comme tel, irrésistible, inexplicable, et sans avoir aucune prise sur lui, c'est très éloigné de la pensée biblique. Et déjà, il nous est présenté comme un commandement, aimer, impératif. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, certaines traductions. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres, impératif, comme moi je vous ai aimé. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Aimez vos ennemis. Aimez, un verbe à l'impératif. Aimez volontairement, aimez activement. Décidez d'aimer. Déclenchez en nous l'amour. Libérez en nous la puissance de l'amour. Déverser de l'amour, persévérer dans l'amour. L'amour volontaire, l'amour effort, l'amour dépassement de soi. Mais vraiment, ça en vaut la peine. Quand au bout de ce chemin, le sentiment pointe son nez et vous gratifie de votre effort. Alors oui, des fois, c'est plus dur. Des fois, ça semble un peu contre nature, hors de portée. Des fois, ça semble peine perdue. Trop souvent, c'est sans retour. Et il arrive même parfois que le retour soit du mépris. Mais pourquoi ne connaîtrions pas, nous, ce que Jésus a connu lui-même? La haine, le mépris, l'indifférence. Que pouvons-nous vivre qu'il n'a lui-même vécu? A-t-il cessé d'aimer ceux qui ne l'aimaient pas? S'il l'avait fait, s'il avait cessé d'aimer ceux qui ne l'aimaient pas, nous en serions les premières victimes. A-t-il attendu que nous fassions le premier pas? Si nous aimons seulement ceux qui nous aiment, nous dit-il, qu'avons-nous de plus que les incroyants à qui nous prétendons révéler l'amour de Dieu? Dieu ne nous a-t-il pas aimés alors que nous ne l'aimions pas encore? Pire, alors que nous n'avons rien du tout pour lui plaire. Jésus nous a aimés le premier, et nous savons désormais que ce qu'il attend de nous. Si ce qu'il attend de nous est que nous aimions ceux qui ne nous aiment pas et qui ne l'aiment pas lui, alors à plus forte raison, aimer nos frères et sœurs de la communauté chrétienne et à plus forte raison encore, nos proches. Dit comme ça, ça semble logique de prendre la chose à l'envers et de dire, mais oui, si on mais appelé à aimer ceux qui ne nous aiment pas, ça doit être plus facile d'aimer nos frères et sœurs, encore plus facile d'aimer nos proches. Mais plus le cercle se rapproche, on le constate aussi, plus notre attente envers ces personnes, les personnes de ces cercles qui se rapprochent, a tendance à augmenter. Mais là, on touche un autre point qui est celui de la patience, et pas seulement d'ailleurs, la bienveillance peut-être, la maîtrise de soi, des choses que nous aborderons dans les semaines qui viennent.